Bonjour, bonjour Jean-Gilbert, bon Dieu béni haut, bonjour aux amis, bon Dieu béni haut. Comme la belle-mère vient de se connecter, elle serait jalouse. Donc, il faut que je la salue en créole aussi. Bon Dieu béni haut, la belle-mère. Bonjour Manon, bonjour pasteur André, sois béni. Tu veux bonjour Jean? Non, tu veux ta collation, c'est juste ça qui t'intéresse, voilà. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. Soyez toutes deux bénies. Alors, on est le vendredi 12 novembre de l'an de grâce 2021. Journée pluvieuse aujourd'hui, un peu moins demain. Soleil dimanche, mais aujourd'hui c'est, je crois, jusqu'à 25 mm de pluie, donc quand même de bonnes averses par moment. L'avantage pour moi, c'est que ça va faire tomber les dernières feuilles qui restent à tomber avant la première neige, donc ça va être plus facile de nettoyage, tant cet automne que ce printemps. Voilà, voilà. Il me reste probablement une ou deux petites corvées de feuilles à faire. Jocelyne, Jacques, que Dieu vous bénisse. Combien je suis content de voir votre nom apparaître ce matin. Soyez richement, grandement, abondamment bénis ce matin. On ne cesse de penser à vous et de prier pour vous deux. Donc aujourd'hui, oui, c'est une journée de jeûne et de prière, mais il y a eu, j'avais un rendez-vous médical, un examen mardi, donc la séance de mardi a sauté. Alors, je vais reprendre l'enseignement ce matin. Alors, j'ai fait quelques ajustements aussi au niveau configuration. Et hier, il semble que ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, il semble que j'ai pas d'avis comme quoi il y a des coupures ou autres. Donc, juste me laisser savoir si cette nouvelle configuration fonctionne bien pour vous. Si vous avez quelques coupures et tout ça, juste m'en laisser savoir, m'en aviser plutôt parce que je veux être certain que la configuration que j'ai pour laquelle j'ai opté fonctionne bien. Mais à prime abord, de mon côté, il n'y a rien qui affiche comme quoi il y aurait des troubles. Donc, on s'en réjouit. Enfin, je m'en réjouis. Bonjour Guy, bon vendredi à toi aussi. Sois béni. Alors, vous entendez Néma qui est allée s'abreuver. La belle maman doit être contente. Bonjour Dalila. Que Dieu vous bénisse. Ça fait quelques jours que je ne vous voyais pas, donc je suis content de vous avoir ce matin. Soyez bénis. Génial, génial. Alors, Jocelyne, tu fais exactement comme moi quand j'étais à l'hôpital en chimiothérapie. J'écoutais aussi des prédications, des enseignements. Donc, c'est profiter d'une situation un peu difficile pour y amener un baume de la part du Seigneur. Donc, on prie pour toi, ma sœur, que Dieu te bénisse. Bonjour, Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. On ne les a pas nommées dernièrement. Donc, la sœur Ossilia, la sœur Chantal, la sœur Mona, que vous soyez toutes bénies. Je rappelle qu'on est vendredi, donc aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire pour l'assemblée de dimanche. Vous savez que dimanche dernier, on vous en a avisé, on était presque à pleine capacité. D'où les inscriptions qui deviennent de plus en plus importantes on vous invite à ne pas tarder à vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Vous avez jusqu'à midi, en fait, pour le faire. Donc, ne tardez pas. J'ai vu certains noms qu'on a habituellement qui ne se sont pas inscrits, probablement par oubli. Donc, si vous n'avez pas reçu un appel, une confirmation mercredi ou hier matin, ça veut donc dire que votre inscription n'est peut-être pas rentrée, à moins que vous soyez inscrit hier en cours de journée. En tout cas, on vous invite à vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Bonjour à la sœur Flori, au frère Louis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Immacula. Très content de l'avoir avec nous ce matin encore. Bonjour Thérèse. Bonjour Rosie, votre message ce matin m'a fait grand plaisir. On continue à prier pour André, que le Seigneur fasse son œuvre dans son corps, oui, mais aussi dans son âme et dans son esprit. Donc on se réjouit aussi de la visite du frère que vous avez eu ce matin, qui a été une source de bénédiction pour vous et les vôtres. Donc que Dieu vous bénisse, ma sœur. La belle-mère, vous commencez en créole et vous finissez en français. C'est le meilleur des deux mondes. Bonjour Marie-Marthe. Si Marjo est avec toi, bien le bonjour à elle aussi. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bon vendredi. Buenos días, hermana Flori, otra vez. Je comprends, il faut juste s'habituer. Là maintenant, on a 6 heures d'écart. On avait 6, puis 5, puis maintenant 6 heures. Je crois qu'on a d'écart actuellement. Ici, il est 8h30 presque. Alors pour vous, quelle heure il est, Rosie? Je suppose qu'actuellement, vous êtes à 6 heures d'écart avec nous, il me semble. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Maria Elena González, que Dieu vous bénisse, Dios la bendiga. Non, je vois que mon père ou ma mère sont connectés, mais je ne les ai pas salués. Ils ne sont pas apparus bizarrement. Mais j'ai vu la photo apparaître, mais j'ai pas vu le nom, donc on les salue. Non, Emma. Emma a un petit problème à une patte et une masse qui est apparue. Et on veut éviter qu'elle lèche la masse. Donc à l'occasion, il faut que je me retourne vers elle pour lui dire d'arrêter. On l'amène chez le vétérinaire aujourd'hui pour avoir une idée plus claire de ce qui doit être fait. Donc, s'il est 14h28 pour vous, Rosie, c'est donc 6 heures d'écart que nous avons actuellement. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, notre sœur Rosie nous regarde depuis la France. Et on salue ceux qui, depuis la France aussi, nous regardent parfois en différé, ou souvent en différé. On pense à Landry et à Lalande. Que Dieu les bénisse. Voilà mon père qui apparaît. Alors, bien le bonjour à lui et à la mère supérieure. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. On termine avec la dernière phrase de ce verset. Je pense que ça a été une source d'enrichissement et de bénédiction encore cette semaine. Un texte qu'on connaît très souvent, mais le fait de s'arrêter aux mots et d'en expliquer le sens plus précisément, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des Écritures. bonjour à ma tante qui vient de se connecter, ceux qui ne le savent pas. Elle se prénomme Geneviève, nom de famille Gufflet. C'est donc la jeune sœur de mon papa. Elle nous regarde depuis la belle région de Bordeaux. Bonjour à la sœur Susanna et à son époux. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Donc encore une minute et puis on va commencer, comme j'étais tout à l'heure, ce matin, bien qu'on habituellement le vendredi matin, on consacre notre temps à la prière et à l'intercession. Ce matin, il nous reste encore un enseignement à faire puisque mardi, notre séance a été annulée en raison d'un rendez-vous médical que j'avais. Je sais qu'il y a plusieurs séances qui sautent. Dernièrement, que ce soit des problèmes techniques ou des rendez-vous, on s'en excuse pour l'un et pour l'autre, ça sort de notre compétence ou de nos capacités à faire les choses différemment. Mais on s'en excuse, mais on est content à chaque jour de vous revoir fidèlement. Bonjour Suze, que Dieu te bénisse. Bien le bonjour à la petite famille. Alors on va prier et on va commencer. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour celle que tu t'apprêtes à partager avec nous aujourd'hui. C'est constamment un privilège que nous avons de l'étudier, de la méditer, de nous nourrir spirituellement par elle. Je prie Seigneur que tu répandes ta grâce sur toutes nos sœurs, sur tous nos frères qui sont connectés, que tu puisses aussi bénir ceux qui se connecteront plus tard. Qu'une même grâce, qu'une même onction se répande sur nous tous. Nous te disons, Seigneur, que nous recevons ta parole comme étant source de vie pour nous, comme étant la vérité absolue et parfaite dans ce monde. Alors parle-nous, ne retiens rien de ce que tu avais préparé, mais en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse en ce vendredi 12 novembre. Juste vous rappeler qu'on a un deuxième rendez-vous aujourd'hui à 19h heure de Montréal pour notre temps de prière et d'intercession, comme on l'a habituellement le vendredi soir. Donc 19h ce soir. Pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Europe, avec l'heure de Paris, c'est 6 heures de différence. On est revenu dans la nuit de samedi à dimanche au même paramètre qu'auparavant, donc c'est 6 heures de différence entre nous et vous. Donc si vous voulez vous joindre à nous, juste en prendre note concernant l'heure qui a changé pour nous le week-end dernier. Alors je lis pour vous dans Hébreux au chapitre 4, le verset 12, qui a été le verset thème de la prédication du pasteur Sergio dimanche dernier et qui a été à la base donc de nos réflexions tout au long de cette semaine. Réflexion en trait à la thématique de la parole de Dieu. Donc le verset nous dit: car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète le verset: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète une dernière fois cette section qu'on va étudier ce matin. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est merveilleux de voir le Seigneur qui nous parle depuis déjà plusieurs semaines. Je pense que ça a commencé quelque part au mois de septembre ou au mois d'août. alors que le pasteur Sergio prenait une pause au niveau de l'étude biblique du mercredi. J'ai eu à cœur de vous parler sur la parole de Dieu et sur l'importance qu'elle doit revêtir dans la vie du croyant. Et tout au long des semaines qui ont suivi, que ce soit le matin lors de nos bénédictions matinales, que ce soit lors des prédications du dimanche, on a étudié non seulement l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, mais de surcroît à cela aussi les différents symboles qui nous sont donnés à travers la Bible concernant la parole de Dieu. Et un de ces symboles était effectivement l'épée, un verset qu'on a lu aujourd'hui, qu'on avait étudié sur une seule journée, quelque part au mois d'août ou de septembre, mais qu'on a révisé donc plus approfondi, de façon plus approfondie aujourd'hui, ou cette semaine plutôt, avec ce verset. Alors on termine aujourd'hui avec « Elle juge la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur ». On va revenir dans le terme « juger » à la toute fin, tout simplement pour qu'on comprenne ce que la parole de Dieu fait dans la définition de juger. Qu'est-ce que ça représente, juger les sentiments et les pensées du cœur? Sentiment, c'est le terme intimesis. En fait, lorsqu'on va dans notre langage usuel et très contemporain, sentiments et pensées, on les explique très souvent par des définitions contraires, on va dire, ou contradictoire avec la définition grecque du terme. Sentiment, aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des émotions. Mais lorsque le terme entemesis, donc E-N-T-H-Y, je répète, entemesis, E-N-T-H-Y-M-E-S-I-S, lorsqu'on parle de sentiment ici, on ne parle pas d'émotion, mais on parle du fruit de notre réflexion, donc de la pensée, de la considération et des opinions. Quand on parle des pensées, dans le verset qu'il y a là, c'est le terme ennoia sur lequel on va revenir, et dans ce sens-là, on parle effectivement des motivations, des intentions et des émotions. C'est un peu comme si on parlait, quand on parle des sentiments, mon sentiment par rapport à une chose, on dirait que on vous présente un fait d'actualité et on vous demande quel est votre sentiment par rapport à cela. Ce qu'on veut savoir, c'est pas est-ce que ça vous réjouit, est-ce que ça vous peine, est-ce que ça vous chagrine, est-ce que ça vous irrite. Quand on parle d'exposer nos sentiments par rapport à un fait divers, on parle d'exposer notre pensée, notre réflexion, nos conclusions, si on en a, notre jugement par rapport à une chose. Et ici, effectivement, c'est ce que nous sommes amenés à aborder. Donc, la parole de Dieu vient juger nos pensées, notre considération ou notre opinion sur une chose. Donc, ça vient apporter un jugement, non pas strictement sur nos actions, non pas strictement sur les faits qu'on accomplit, sur le fruit de notre travail, mais de surcroît à cela, la parole de Dieu va aussi juger, apporter un jugement sur nos réflexions. Alors mes pensées, mes réflexions sont-elles meublées tout au long de la journée par la parole de Dieu? Est-ce que lorsque je suis confronté à une chose, est-ce que ma première réaction au niveau de ma réflexion, est-ce que c'est de penser quelle est l'opinion de Dieu ou moi d'exposer mon opinion? Est-ce que lorsque survient une chose devant moi, est-ce que j'ai ce réflexe de revenir à la parole de Dieu et donc de revenir immédiatement à la pensée de Dieu en me demandant mais qu'est-ce que Dieu peut bien penser de ce fait, de cette situation, de ces circonstances qui se présentent devant moi, ou est-ce que ma première réaction c'est de dire voilà moi ce que je pense, et après ça par dépit parfois tout simplement par obéissance entre guillemets, on revient à dire, voilà mon opinion, mais bon, je vais m'arrêter pour savoir qu'est-ce que Dieu pense. Est-ce que la première initiative qui survient chez moi, c'est d'émettre une opinion, de juger une chose par mes propres connaissances, ou c'est d'aller directement vers le Seigneur en disant, mais toi Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, la parole de Dieu juge. Elle juge les réflexions. Elle juge les décisions qu'on prend. Elle juge les opinions qui nous habitent. Et une opinion, ou avoir des opinions, ce n'est pas strictement une question de pensée ou une question de vocable et une question d'avoir proclamé une chose. Des opinions peuvent nous habiter et être enfouies en nous, ne jamais sortir des pourtours de nos lèvres, mais malgré tout, nous habiter et dicter notre comportement, dicter notre réaction, dicter notre attitude par rapport à une chose ou par rapport à quelqu'un. Donc, il est important de savoir que Dieu n'est pas strictement intéressé à nos actions. Dieu n'est pas strictement intéressé à ce qui est visible de l'extérieur, mais que la parole de Dieu vient aussi apporter un jugement sur ce qui nous habite, nos pensées, nos réflexions, nos décisions, notre opinion par rapport à une chose ou à une autre. Voilà pourquoi, peu importe la décision que nous avons à prendre, et j'ai eu à le mentionner hier et mercredi soir, toutes nos décisions devraient être mises sous le regard et sous la loupe de Dieu, sous le regard et sous la loupe de la parole de Dieu. Avant que je ne prenne une décision pour une orientation, pour une chose à faire, pour une implication dans un domaine ou dans un autre, je devrais avoir ce premier réflexe de me tourner vers Dieu, prendre un temps de prière, prendre un temps de réflexion à la lumière de la parole de Dieu. Et ça va dans toutes les décisions majeures de notre vie. Je ne suis pas en train de vous parler de prendre une décision à savoir, je vais prier pour voir si Dieu aujourd'hui veut que je prenne la brosse à dents noire ou la brosse à dents bleue ou la brosse à dents rose. Non, c'est pas de ça qu'on parle, mais des décisions importantes de notre existence. Quel est le travail auquel je dois m'impliquer? Quelle est l'orientation? Quel est le lieu où Dieu me veut? Quelle est l'implication que je dois avoir autour de moi? Ces choses-là devraient effectivement être mises sous le regard de la parole de Dieu, sous le regard de notre Seigneur. Donc, il juge les sentiments, donc juger les pensées, les considérations, les opinions, les décisions que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Il nous dit par la suite qu'il juge les pensées. Et là, je vous disais, c'est le terme enoia. E-N-N-O-I-A. Je répète, enoia. E-N-N-O-I-A. Et lorsqu'on parle de enoia, on parle ici des intentions et des motivations. Tout à l'heure, c'était un peu comme la réflexion sur une chose qui est jugée. Mais là, c'est plus les sentiments qui nous habitent, les émotions qui nous habitent par rapport à une chose. Quelles sont mes intentions? Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes motivations? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je pense ce que je pense? Est-ce que je prends une position de par un défaut d'orgueil, de vanité? Est-ce que je prends une position par rapport à de l'égoïsme, donc en me demandant est-ce que cela me rapporte et en quoi ça me rapporte de prendre telle ou telle action. Donc le Seigneur va juger non seulement les actions, va juger la réflexion, donc les pensées, mais Dieu va aussi juger les motivations du cœur. Parfois on fait la volonté de Dieu, mais on ne fait pas la volonté de Dieu avec les bons sentiments. Et je disais, et je parlais très personnellement, puisque je suis dans le ministère, et je sais qu'il y a quelque chose de grisant aussi dans l'exercice d'un ministère. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, lorsqu'on est dans le ministère, on est à l'avant-plan des gens. On a des gens qui nous regardent, on a des gens qui nous aiment, on a des gens qui nous aiment beaucoup, on a des gens qui valorisent notre opinion. Et tout cela peut être très enivrant. Et il y a des gens qui, à un moment donné, bien qu'ils aient commencé le ministère pour de justes raisons et avec de justes valeurs, à un moment donné, de façon tout à fait cachée, insidieuse, on vient à changer les motivations du cœur. Et ce qu'on a envie maintenant, ce n'est plus nécessairement que nos gens soient servis, que nous ayons donné notre vie au service des gens, mais que les gens remarquent notre service. Et ça arrive à tous les niveaux du service. Et c'est pas strictement un problème pastoral, c'est pas strictement un problème de quelqu'un qui serait dans un ministère, mais tout simplement l'action qu'on peut poser dans le corps de Christ, un service qu'on peut rendre. Il y a des gens qui veulent rendre un service à quelqu'un en se disant, mais si je lui rends ce service, inévitablement, cette personne m'est donc redevable. Et elle attend quelque chose en retour. La Bible nous dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne, ou que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Ici, on est en train de dire, ben donne sans attendre en retour. Donne sans attendre ni un retour factuel, ni même un retour en remerciement, ni même un retour en reconnaissance. Ce qui ne veut pas dire, et ça je le répète très souvent lorsqu'on parle de la reconnaissance, le fait que moi je donne librement ne veut pas dire que celui qui reçoit n'est pas obligé ou n'est pas tenu plutôt d'être reconnaissant. Non seulement faut-il être généreux, mais celui qui reçoit l'acte de générosité, celui-là aussi se doit d'obéir à Dieu, et la reconnaissance est tout à fait biblique. Donc, dans le cas de donner, bien que la reconnaissance des gens ne m'appartienne pas, ça soit propriété de Dieu et ça soit entre eux et Dieu, moi je dois donner parce que je dois donner, mais celui qui reçoit doit aussi rendre reconnaissance à celui de qui il a bénéficié. Mais il y a certaines personnes qui vont travailler strictement dans l'objectif d'être reconnu, dans l'objectif de recevoir en retour, que ce soit un applaudissement, que ce soit une mention publique, que ce soit une redevabilité ad vitam aeternam de la part de celui qui l'a aidé. Combien de fois on a été aidé par quelqu'un, puis on a le sentiment par la suite que depuis qu'on nous a donné un coup de main, ben on me considère un peu comme, pas l'esclave, mais un peu celui qui est le serviteur de celui qui lui a donné précédemment. Lorsqu'on donne, on doit donner librement, sans port d'attache, sans corde qu'on met au cou des gens pour les lier de quelque manière que ce soit. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu fais par obéissance? Ou est-ce que tu fais ce que tu fais par amour? Je me rappelle une conversation vibrante, que j'avais à l'adolescence avec mes parents, donc il y a bien des années, une trentaine d'années minimum, voire plus que ça en fait, non, 35 ans minimum, qu'on avait cette conversation où je disais, moi je ne veux pas servir par obéissance. Si je fais quelque chose pour Dieu, je veux le faire par amour. J'avais en partie raison et en partie tort. Dans le sens où si j'aime Dieu, je vais lui être obéissant. Mais je voulais pas que le premier sentiment qui m'habite lorsque je servirai Dieu, ce soit un sentiment de « je le fais parce que je dois le faire ». Je le fais simplement pour me conformer aux exigences de Dieu. Et il y a des gens qui obéissent strictement pour se conformer. J'en parlais ces derniers jours en disant « ben il y a des gens qui veulent tout simplement passer outre la sanction. Donc ils font tout pour être corrects sans plus. Ils font tout pour être soustrait à quelques jugements, à quelques condamnations que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont donné leur meilleur, ça ne veut pas dire qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ça ne veut pas dire qu'ils se sont impliqués pleinement, ça veut juste dire qu'ils ont fait le strict minimum pour que personne, ni même Dieu, ne les trouve coupables. Lorsque je fais quelque chose comme ça, j'aimerais te dire que Dieu voit les motivations du cœur. Et si les motivations de mon cœur, c'est tout simplement de me soustraire à une sanction, de me soustraire à un éventuel jugement, je ne suis pas en train de faire les choses pour les raisons pour lesquelles je devrais le faire. Lorsque nous servons Dieu, nous devrions le faire parce que nous sommes passionnés de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, ce service va très souvent être manifesté, non pas envers Dieu directement, mais envers son peuple ou envers notre prochain. Jésus va dire à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez donné. Quand vous êtes allé visiter quelqu'un en prison, c'est moi que vous êtes venu visiter. Quand vous avez vêtu celui qui n'avait pas de vêtements, c'est moi que vous avez vêtu. Lorsque vous avez rassasié celui qui avait faim, c'est à moi que vous avez donné à manger. Donc à chaque fois qu'on s'occupe de notre prochain, c'est en même temps quelque chose qu'on fait envers Dieu. Si c'était Jésus que tu avais devant toi en ce moment-ci, et que tu sais que Jésus a soif, vas-tu lui donner à boire tout simplement pour contenter ses attentes? Ou vas-tu lui donner à boire parce que tu aimes profondément Jésus? L'action qu'on pose lorsqu'on aime quelqu'un versus l'action qu'on pose lorsqu'on veut juste respecter quelqu'un, ou l'action qu'on pose même lorsqu'on veut juste obéir à quelqu'un, la manifestation de cette action va grandement différer. Je veux dire, si je veux juste obéir à quelqu'un, je vais lui amener une bouteille d'eau et je le pose sur la table avec un verre qui est vide et puis je lui dis « Sers-toi ». Mais si j'aime cette personne ou si j'apprécie cette personne, je vais lui amener le même verre et je vais lui verser de l'eau. Mais si je suis profondément en amour avec cette personne, je vais aller chercher une quantité d'eau qui outrepasse ce qu'il pourrait avoir envie de boire. Et je vais lui amener probablement le plus beau verre que j'ai chez moi. Voire même si je n'ai que deux verres, un qui est vil, sans peu de valeur, et l'autre qui est très très beau et avec une grande valeur, voire un verre en cristal. Lorsque j'aime quelqu'un, je vais lui donner le verre en cristal et moi je vais prendre l'ancien verre de moutarde. L'ancien pot de moutarde, tout simplement, pour boire. Pourquoi? Parce que je valorise cette personne, parce que j'aime cette personne, et mon service envers cette personne va être influencé par l'amour que j'ai envers elle. Par conséquent, si j'aime Dieu, et si je sers Dieu par amour et non par obéissance, la qualité de mon service va aussi s'en ressentir. On n'aura plus cette attitude qui dit « Ah, ben de toute manière, Jésus comprend. » Ou « De toute manière, Dieu sait que je ne suis pas capable de faire plus. » Non, lorsqu'on aime quelqu'un, on va au maximum de nos capacités. On va au maximum de ce qu'on est capable de faire. On va au maximum de nos efforts. Pourquoi? Parce qu'on aime cette personne. Et on veut honorer cette personne. Alors Dieu, oui, la parole de Dieu va mettre en lumière tes intentions. La parole de Dieu va mettre en lumière tes objectifs. Même ceux que tu as cachés derrière de nobles causes, la parole de Dieu va venir pointer, illuminer, percer, piquer dans cet endroit particulier où il va dire, « Ah non, actuellement tu es en train de prêcher. » Mais ce n'est pas... parce que tu m'aimes, tu es en train de prêcher parce que tu veux juste être meilleur que les autres. Tu es en train de prêcher parce que tu veux juste avoir l'attention. Tu es en train de prêcher parce que tu veux juste être écouté. Il y a bien des raisons de servir. Et la parole de Dieu vient piquer dans ces endroits-là où on ne sert pas pour les bonnes raisons. Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes intentions? Quels sont tes sentiments? La parole de Dieu va venir juger. Revenons maintenant au terme « juger ». C'est le terme, et vous allez tout de suite voir dans quel groupe de mots de la même famille il appartient. En grec, c'est le terme « kritikos ».« Kritikos ». pour critiquer. Alors, on l'appelle en grec Kritikos, Kritikos, Kritikos. Kritikos, lorsqu'on l'utilise, va nous parler d'un processus de jugement, d'un processus de critique. En fait, Kritikos, dans l'étymologie du terme, va parler non seulement de discerner une chose, de savoir discerner les composantes d'une chose, un peu comme on disait tout à l'heure, Dieu va au-delà de simplement ce qu'on peut voir, il est capable de juger à travers sa parole, il est capable de juger les motivations, les pensées qui accompagnent un geste. Donc non seulement ça part du fait de discerner la nature d'une chose, mais qui va jusqu'à rendre un verdict. Kritikos, en fait, est un terme tout à fait légal, un terme qui a trait à la loi, un terme qu'on utiliserait si on était grec de l'époque de Jésus. On utiliserait ce terme-là dans une cour judiciaire. Et on dirait, voici ce que nous avons perçu et voici le jugement qu'on a rendu. Alors, qu'est-ce que fait la parole de Dieu lorsqu'elle juge? 7 points rapides. Premièrement, elle examine. La parole de Dieu va sonder notre cœur. La parole de Dieu va venir regarder toutes les parties, même les plus cachées de notre vie. La parole de Dieu va venir définir ce que nous avons fait. Non seulement elle examine, mais elle arrive à dire, voici finalement ce que tu as fait. Tu as donné ton 100% ou tu as donné simplement 75%. Tu as fait les choses pour une bonne raison ou tu as fait les choses pour une mauvaise raison. Donc, elle va être capable non seulement d'examiner, mais de définir. Puis, dans certains cas, la parole de Dieu va approuver. La parole de Dieu dit, voici, je suis d'accord, tu suis mes préceptes, tu suis mes enseignements, je suis d'accord avec ce que tu fais. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans un cas un peu moins reluisant, la parole de Dieu va exiger des changements. La parole de Dieu va dire, voici ce que tu fais, voici comment tu pourrais mieux faire. En fait, puisque la Bible nous appelle d'aller ou à aller de progrès en progrès, ça veut donc dire que nous sommes supposés être en constante amélioration. Et la parole de Dieu va susciter ou va nous appeler ou va nous éclairer sur comment progresser et comment nous améliorer. Donc, elle examine, elle définit, elle approuve. Au besoin, elle exige des changements. Dans le pire des cas, elle condamne. Il y a des choses où la parole de Dieu nous dit, voici, je n'approuve pas. Il y a des choses où la parole de Dieu va être très claire en disant, voici cela, j'haïs cette chose, je hais cette chose, je désapprouve cette chose. La Bible nous parle à un moment donné de ceux qui sont tièdes. Et le Seigneur va dire, voici, il aurait été mieux que tu sois chaud ou froid, mais parce que tu es tiède, je te vomirai moi-même de ma bouche. Ça veut dire que Dieu va... Il y a des choses qui lèvent le cœur de Dieu. Il y a des choses qui sont désagréables profondément pour Dieu, à un tel point où ça lui fait un haut-le-cœur. Il y a des choses que Dieu condamne. Et lorsqu'il condamne, ben il sanctionne. La condamnation de Dieu, ça ne s'arrête pas simplement à dire « Ah, voici, je n'approuve pas telle chose, je condamne telle chose. » Mais la condamnation, lorsqu'on est en cour, elle entraîne des conséquences. La condamnation, lorsqu'on passe devant un juge, entraîne des conséquences. Quelque chose à payer, quelque chose à un temps d'incarcération. Il y a une conséquence à la condamnation de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il condamne une chose dans notre vie, il y a aussi sanction. Mais la parole nous l'annonce. La parole nous le dit. Si Dieu condamne une chose dans ta vie, il va sanctionner la chose. Et pourquoi t'annonce-t-il la condamnation? Pourquoi t'annonce-t-il les sanctions? Pour que tu puisses mieux faire, pour que tu puisses te reprendre, pour que tu puisses changer. Donc la parole de Dieu non seulement va-t-elle parler des choses que Dieu voudrait changer, des choses que Dieu condamne, des choses que Dieu sanctionne, mais de surcroît à cela, la parole de Dieu dans toute la grâce, et on l'oublie trop souvent, la parole de Dieu offre aussi la voie de rédemption. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Donc foncièrement, nous méritons tous la mort éternelle. L'éternité passée loin de toute présence de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement, la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, regardez dans ce verset-là, on nous dit « Dieu a regardé tout le monde et il a jugé. » Mais il a dit « Pour que tu passes outre ce jugement, cette condamnation et cette sanction, j'offre mon Fils comme victime expiatoire pour le péché qui est le tien, pour mon péché personnel, afin que si je crois en lui, comme effectivement le Messie, comme effectivement le Seigneur et comme effectivement le Sauveur, je puisse être sauvé. » Bien entendu, lorsqu'on parle du terme « croire », ici, ça va beaucoup plus loin qu'une simple question de dire « Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord que Jésus est le Sauveur. » Dans la notion de croire ici, il y a non seulement croire qu'il est effectivement le cadeau de Dieu pour le salut de l'humanité, mais s'il est le cadeau de Dieu, et si cette condamnation m'a été retirée à cause de lui, comment pourrais-je dire que j'ai cru en son acte salvateur et ne pas vivre ma vie en conséquence? Vivre ma vie avec Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Comme Sauveur, c'est facile. Comme Seigneur, c'est peut-être autre chose. Jésus est-il le Seigneur de ta vie? Jésus est-il le Maître de ta vie? A-t-il le droit, effectivement, à travers sa parole, de venir confronter des choses dans ton existence? A-t-il le droit de juger? Ou écoutes-tu le jugement de Dieu par rapport à tes intentions, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes motivations? Écoutes-tu le jugement de Dieu, la critique de Dieu, le criticos de Dieu par rapport à tes réflexions, par rapport à tes pensées, par rapport à tes décisions, par rapport à tes opinions? Et entends-tu l'appel de Dieu à une refonte de ta vie, à une réformation, ou à une réforme plutôt, de ton existence? La Bible nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Si ce matin, tu entends la voix du Seigneur qui te parle, et ce n'est pas la mienne, c'est celle qui parle au plus profond de ton cœur ce matin, et qui te dit, tu es pécheur, tu es donc condamné, et tu as besoin d'un sauveur. Je prie que tu te tournes vers Jésus en demandant pardon pour tes péchés et en t'engageant à vivre pour lui, pour le restant de ton existence. Prions. Merci Seigneur pour cette parole qui va profondément dans l'âme, dans l'esprit, cette parole qui va profondément dans le cœur, cette parole qui vient juger non seulement nos actions, ce qui est visible aux yeux de tous, mais qui vient aussi juger nos réflexions et qui vient juger nos sentiments, nos émotions, les pensées qui n'ont jamais même franchi le pourtour de nos lèvres. Tu les juges. Certaines t'honorent, certaines sont désobligeantes envers toi. Alors je prie, Seigneur, que tu parles à mon ami ce matin, mon frère, ma sœur. Que nous ne fassions pas la sourde oreille à ta voix, que nous te permettions d'avoir regard sur toute section de notre vie, mais plus que droit de regard, que nous t'offrions aussi, Seigneur, toute notre attention par rapport à ton jugement, à ton criticos sur les parties les plus profondes de notre être. afin que ce soit ce que nous disions, ce que nous faisons, ce que nous pensons, qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions t'honorer. Bénis cette parole par l'onction de ton esprit. Permets à cette parole de s'enraciner profondément en nous, de croître pour porter un fruit qui te sera agréable. Un fruit digne de la repentance, un fruit digne d'être enfant de Dieu. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends, que tu réponds et que tu aimes tes enfants. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement vous rappeler deux, trois choses importantes. Donc ce soir, rendez-vous à 19h sur notre plateforme Facebook pour notre réunion de prière et d'intercession à partir de 19h. De surcroît à cela, vous savez que l'assemblée de dimanche est toujours en présentiel. Si vous voulez y être, vous pouvez vous inscrire encore jusqu'en début d'après-midi, jusqu'à midi en fait. Donc, vous appelez au numéro de l'église, vous laissez un message sur la boîte vocale ou vous nous écrivez par courriel au courriel de l'église. Non pas par Facebook, non pas par Messenger, mais vraiment à travers le courriel de l'église et vous réservez une place pour vous et pour toute personne qui vous accompagnerait. Le seul critère, c'est bien entendu de ne pas présenter de signes grippaux, puisqu'on est toujours quand même en pandémie, et de surcroît à cela, d'être âgé de plus de 6 ans. C'est l'exigence que nous avons jusqu'à présent. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, rendez-vous ce soir, 19h, et puis n'oubliez pas de vous inscrire pour le culte de dimanche. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.